Le journal, bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin, des adolescentes de banlieue transformées en esclaves sexuelles. Le procès de leur proxénète présumé s'ouvre aujourd'hui. Ils s'attaquaient à des adolescentes des cités qu'ils forçaient à se prostituer. Des dizaines d'affaires semblables sont en cours d'instruction. Témoignage à suivre dans un instant. À l'étranger, Paris gagnant pour Erdogan. Le président turc remporte l'élection présidentielle qu'il avait convoquée. Majorité absolue dès le premier tour. Géraldine Allot nous attend à Istanbul. Des profits records pour le CAC 40. Ils ont bondi de plus de 20% l'an dernier, tout comme les dividendes versés aux actionnaires. On verra pourquoi et on en parlera également dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité, l'économiste Thomas Piketty.
Et j'attends toutes vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Les réseaux sociaux, l'application France Inter.
Dans ce journal également, l'Europe coupée en deux, toujours sur la question des migrants. Le premier bilan des classes de CP dédoublé, il est franchement bon. Et puis surveillez votre alimentation et votre mode de vie. 4 cancers sur 10 pourraient être évités si nous changions nos habitudes.
France Inter.
Recrutés sur les réseaux sociaux, drogués, puis prostitués. C'est donc le procès d'une forme de proxénétisme en plein essor qui se tient aujourd'hui à Paris. Celui d'adolescentes recrutées en banlieue dans leur cité. 70 affaires de ce type sont en cours d'instruction rien qu'en région parisienne. Mathilde Lemaire a pu recueillir le témoignage de la mère de l'une de ces adolescentes qui raconte comment sa fille s'est faite embrigader.
2016, Awa en seconde à 15 ans. Elle est fan de mode et flirte sur Instagram avec un garçon qui a repéré ses jolies photos. Il lui propose de gagner de l'argent. Elle se laisse tenter, sa maman, Edwige.
Ils lui ont lavé le cerveau. Comme c'est des filles de cité, donc pas très fortunées comme nous, ils les ont appâtées par la facilité et l'argent.
Son proxénète achète maquillage et vêtements. Il poste des annonces en ligne. Les clients appellent. Awa enchaîne sous la menace jusqu'à 10 passes par jour dans des appartements loués spécialement. Elle et ses copines, bientôt séquestrées et sous cocaïne, touchent de moins en moins d'argent.
Ils leur disaient de travailler, travailler, les bastonner, c'était des partouzes. Ils les prenaient comme leurs femmes et ils les jetaient aussi en pâture aux clients. Des vieux monsieur.
Un soir, Awa s'enfuit avec une autre ado prostituée.
Ces gens-là sont venus les rechercher à la maison. Ils les ont menacés. On sait où tu habites, on sait tes parents. Si tu veux pas de problème, ils l'ont agressée, ils lui ont cassé l'arête du nez. Au début, elle était pour porter plainte. Mais après, elle a eu peur. Elle s'est retractée. C'est des gens plus forts que vous, vous ne pouvez rien.
10 mois de cauchemar, les policiers font finalement tomber ce réseau. 12 proxénètes d'une vingtaine d'années arrêtée. Même si les leaders sont en détention, ni Awa ni sa maman ne viendront témoigner au procès. Trop peur et envie d'oublier.
Elle a des problèmes de santé. Heureusement, c'est pas le sida. Elle me dit, je suis foutue maman, je ne vaux plus rien. Ils ont déglingué plein de jeunes filles. Il y en a une, elle est en psychiatrie à cause de tout ce qu'elle a vécu.
Awa aujourd'hui vit dans un foyer loin de chez elle. Des psychologues l'aident à se reconstruire.
Parmi les 11 victimes de cette affaire, la plus jeune avait 14 ans, la plus âgée, si l'on peut dire, en avait seulement 17. Le procès va durer 10 jours à Paris. La semaine dernière, c'est la procureure générale qui lançait l'alerte sur ces nouvelles formes de prostitution. Elle demandait aux enseignants, aux associations et aux parents de rester particulièrement vigilants. C'est le deuxième coup de filet en un an dans le milieu de l'ultra-droite. 10 personnes en garde à vue depuis ce week-end, soupçonnées d'avoir voulu s'en prendre à des musulmans. Le chef de ce groupuscule serait un policier à la retraite, qui fait partie d'ailleurs des gardés à vue. Le groupe avait prévu d'attaquer des imams radicaux, des détenus islamistes à leur sortie de prison, ou encore des femmes voilées choisies au hasard dans la rue.
En Turquie, Marc, un seul tour aura suffi.
On le disait menacé par l'opposition, mais ce matin la victoire est nette pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, réélu président dès le premier tour. 52% des voix contre 30% à son principal adversaire. Il n'a même pas attendu la publication des résultats pour se proclamer vainqueur cette nuit. Bonjour Géraldine Allot, envoyée spéciale de France Inter à Istanbul. Alors comment réagit-on ce matin dans les rangs de l'opposition ?
Eh bien, écoutez, l'opposition emmenée par le Parti social-démocrate CHP est vraiment tombée de haut. Non pas qu'elle croyait dur comme fer à la victoire, mais elle pensait au moins pouvoir accéder au second tour de la présidentielle. Le charismatique Muharrem İnce a rassemblé des centaines de milliers de personnes lors de ses derniers meetings. Les gens qui assistaient à son meeting à Istanbul samedi vous disaient « un vent de changement se lève, Erdogan est en difficulté, ça sent la fin pour lui ». Et puis non, patatras, élimination dès le premier tour. Ce militant rencontré hier soir au QG du CHP avait du mal à cacher son émotion.
Je suis très déçu, effondré. Ça me donne envie de quitter le pays. Vous avez vu le monde qu'il y avait dans nos meetings à Izmir, Ankara, Istanbul? Non, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je suis étudiant. Je vais donc continuer mes études et essayer à mon niveau de faire évoluer la société.
Alors voilà, l'opposition est sonnée. Muharrem Inge n'a même pas encore réagi à sa défaite, ce qui a d'ailleurs beaucoup déçu ses partisans qui attendaient un peu de réconfort de sa part. Inge doit tenir une conférence de presse à la mi-journée à Ankara. Hier soir, Ali Şeker, un député CHP d'Istanbul, nous parlait de fraude et de tentative d'intimidation dans plusieurs bureaux de vote. Le CHP va faire un recours auprès du Haut Comité électoral, mais ça ne changera pas, Marc, le cours de l'histoire.
Géraldine Allou en direct d'Istanbul avec Clémence Bonfils à la technique. Merci à toutes les deux. Bernard Guetta y reviendra juste après ce journal. Un sommet pour pas grand-chose hier à Bruxelles où les 16 pays européens présents n'ont pas trouvé d'accord sur les migrants. Pas même de déclaration commune à la sortie, ce qui augure assez mal du sommet cette fois à 28 prévu en fin de semaine. L'Europe à l'heure du chacun pour soi, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent en Méditerranée et particulièrement au large de l'Espagne. Marie-Hélène Ballestero.
Les chiffres sont similaires à ceux du week-end dernier. En tout, près de 2000 migrants ont été secourus ces 8 derniers jours au large des côtes andalouses. Les embarcations de fortune ne cessent d'affluer, notamment depuis la fin du Ramadan et la hausse des températures. Mais cet afflux de migrants en Espagne n'est pas nouveau. Tandis que les routes migratoires entre l'Afrique et la Grèce et l'Italie sont en net recul, la route espagnole a fait son retour dans l'actualité ces dernières années. Selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, la hausse était de 50% en 2016 et le chiffre a été multiplié par 3 en 2017 avec 22 000 migrants. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, plus de 12 000 sont déjà arrivés en Espagne. Et cela devrait continuer pendant l'été. D'où l'urgence pour le nouveau gouvernement espagnol de trouver des solutions. Pedro Sánchez espère que l'Europe va apporter une solution commune pour faire face aux défis de l'immigration. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Il est 8h07 en France, premier bilan pour les classes allégées.
C'est l'une des mesures phares du gouvernement dans l'éducation, les classes dédoublées dans les CP situées en zone difficile. La mesure est entrée en vigueur en début d'année scolaire, l'heure est donc au bilan et à l'école Jacques Prévert de Corbeil-Essonne, où Sonia Bourane est retournée en cette fin d'année scolaire. Il ne viendrait à l'idée de personne de revenir en arrière.
Vous mettez sur les bancs.
Trois ateliers mathématiques.
Le professeur Vincent Véra répartit les élèves en trois groupes. Et ce qui est frappant dans cette classe, c'est que ces élèves de CP se mettent tout de suite au travail. Ils sont déjà très autonomes.
On a travaillé énormément ça cette année. Et c'est l'avantage d'être à 12, c'est qu'on peut être vraiment sur de l'individualisation. Je pense que ça c'est beaucoup... Tu vérifies ton calcul, Raïda ? Voilà, ça se retrouve beaucoup en fin d'année.
Maïsoun et Victoire travaillent dans un coin de la classe.
Quand le maître il nous explique, on fait tout seul. Mais après, quand on a fini, on prend notre cahier d'écriture, on le met dans le bureau du maître. Deux fois, moi, j'ai champion. Deux fois, j'ai excellent. Deux fois, j'ai bon travail.
On dirait une CE1 parce qu'elle travaille bien, ma maman, elle a dit.
Nous, le groupe 1, on sait bien lire. Et après, le groupe 2 aussi et le groupe 3 aussi.
Le bilan est positif pour tous les élèves.
Moi, j'ai vu une nette amélioration du niveau. Que ce soit chez les bons comme chez les élèves un peu plus en difficulté, je crois que c'est même chez eux qu'on retrouve le plus de progrès, dans la mesure où j'ai pu leur consacrer énormément de temps. Ça nous permet d'être dans des conditions de travail bien plus favorables aux apprentissages.
L'année prochaine, les CE1 seront également dédoublés. Ces élèves vont bénéficier du dispositif pendant 2 ans.
Crème au chocolat.
Reportage Sonia Bourane. L'économie, le CAC 40 a gagné un pognon de dingue l'an dernier, selon la formule désormais consacrée. Profit en hausse de plus de 20% pour les valeurs vedettes de l'économie française. C'est une étude du cabinet EY. Les actionnaires Delphine Simon peuvent se frotter les mains.
Plus 22% en 2017. Les profits des sociétés du CAC 40 ont effacé la crise de 2008. Désendettée, la vitrine des grandes entreprises renoue aussi avec la croissance, plus 5%. Conséquence, les dividendes versés aux actionnaires explosent. Marc Lefebvre, associé au cabinet EY.
46 milliards seront distribués en dividendes, ce qui est un beau taux. Tous les résultats nets sont mis en réserve et vont constituer cette fantastique cagnotte. Maintenant, il faut effectivement que ces sociétés aillent chercher de la croissance à l'étranger et donc à racheter leurs concurrents.
Des entreprises conquérantes, parmi lesquelles l'industrie reste le poids lourd avec 39% du chiffre d'affaires global. À l'autre bout, les télécoms, les nouvelles technologies dont le poids faible recule légèrement, tout comme les valeurs bancaires plombées par des taux d'intérêt très bas. Autre point noir l'an passé, l'investissement. Il n'augmente pas, même si les entreprises ont reconstitué leurs marges.
On aurait pu penser que l'investissement repartirait plus vite. Finalement, Cet investissement est stable, mais est en train de repartir à la hausse, et cet investissement sera générateur d'emplois dès 2018, certainement.
Attention, dit-il, si le protectionnisme se renforçait, les sociétés du CAC 40, très exposées à l'étranger, en pâtiraient.
Alors, pour savoir qui gagne quoi précisément au sein du CAC 40, on vous a fait une belle infographie. Rendez-vous sur franceinter.fr. À quand le retour du bœuf français en Chine? Il est interdit depuis 2001 et la crise de la vache folle. Mais la question est au menu de la dernière journée de la visite d'Édouard Philippe à Pékin. Aujourd'hui, annonce attendue à la mi-journée.
8h10, tabac, alcool ou mauvaise alimentation, 4 cancers sur 10 pourraient être évités.
Oui, c'est la conclusion de la dernière étude de santé publique menée auprès de 350 000 malades français. Dans 41% des cas, précisément, l'apparition du cancer est liée à notre mode de vie. Véronique Julia.
Sans surprise, le tabac arrive loin devant tous les autres facteurs de risque. Il provoque chaque année 54 000 cancers chez les hommes et 14 000 chez les femmes. Suivent dans l'ordre l'alcool, l'alimentation, le surpoids, les infections, les expositions professionnelles, aux UV notamment, et l'inactivité. La responsabilité du tabac est beaucoup plus importante chez les hommes. Chez la femme, 10 000 cancers par an sont liés au surpoids et à l'obésité. Les choix alimentaires, c'est très clair, ont une influence. Consommer trop peu de fruits ou trop de viande transformée serait à l'origine de près de 20 000 cancers par an, hommes et femmes confondus. Les cancers les plus sensibles à ces facteurs de risque, le poumon directement lié au tabac, dans une moindre mesure le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de la peau, le cancer du foie, en lien direct aussi les cancers du col de l'utérus et de la gorge avec le papillomavirus. Il serait responsable de 6300 cancers par an, les deux tiers chez les femmes. Seul remède, le vaccin pour toutes les jeunes filles et pourquoi pas les garçons, mais en France il est encore très peu utilisé malgré la recommandation officielle. 15% seulement des jeunes filles sont vaccinées.
Le cancer, le tabac, mais aussi les vaccinations. Il en sera question ce soir au téléphone sonne, dont l'invitée sera la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle répond à toutes vos questions à partir de 19h20 avec Fabienne Sintès. Une mini marée noire à Rotterdam, aux Pays-Bas, où plus de 200 tonnes de pétrole brut se sont échappées d'un tanker par accident, semble-t-il. Le bateau a percé sa coque alors qu'il s'amarrait.
Et à 8h12, vous reprendrez bien un peu de Coupe du Monde.
Réjouissez-vous, amateurs de ballon rond, car désormais ce sera 4 matchs par jour, 2 rencontres à 16h et 2 autres à 20h. Bonjour Franck Ballanger.
Bonjour Marc.
Alors parmi les matchs du jour, il y a la rencontre entre la Russie et l'Uruguay. Les deux sont déjà qualifiés. Mais vous, c'est le nouveau chouchou des Russes que vous nous présentez ce matin. C'est leur avant-centre. Il s'appelle Artyom Dzyuba et disons que c'est un beau bébé, hein.
Au début de sa carrière, on comparait beaucoup Dzyuba à Ibrahimovic. Et pas seulement parce qu'il y a un Z dans Dzyuba, comme dans Zlatan, non. Surtout à cause de sa taille. 1m96 pour le Russe, contre 1m95 pour le Suédois. Et puis, il y avait cette aisance technique chez le Moscovite, très rare chez des joueurs de ce gabarit. Mais la comparaison s'est vite arrêtée, parce que contrairement à Ibrahimovic, Artyom Dzyuba n'était pas très efficace devant le but, et pas forcément très régulier non plus. Adieu Zlatan, donc, et bonjour Artyom Dzyuba, le colosse russe, le géant rouge, des surnoms plus en rapport avec ses qualités réelles.
Alors ce n'est pas Zlatan, mais ce joueur, il a tout de même une carrière très honorable dans son pays.
Du Spartak Moscou au Zénith Saint-Pétersbourg, en passant par le FK Rostov. Au fil des années, Dzyuba gagne un autre surnom, la machine à marquer. Au Zénith, il marque 40 buts en une centaine de matchs. Le ratio est bon, mais comme souvent, l'histoire d'amour se termine mal. La faute à un Italien, pas vraiment fan du géant rouge, Roberto Mancini, ne veut plus de lui et lui trouve un point de chute chez un sans-grade du championnat russe. À l'approche de la Coupe du Monde, Artyom Dzyuba n'a pas le choix et il accepte d'être prêté à l'Arsenal tout là.
Et c'est pourtant là-bas, au milieu de la Russie et surtout au milieu de nulle part, que Dzyuba va retrouver son niveau et même un peu plus que ça.
Il inscrit 6 buts en seulement 10 matchs, dont un capital pour lui. Le Zénith, qu'il a jeté comme une vieille chaussette, vient jouer à Toula. Un accord existe entre les deux clubs. Dzyuba ne peut pas jouer contre le Zénith, sauf si Toula paye 150 000 euros. Artyom Dzyuba insiste pour jouer. Il propose même de payer la moitié de la somme, 75 000 euros, pour pouvoir prouver à Mancini qu'il n'est pas un tocard. Et il joue, 88e minute. Le Zénith mène 3 buts à 2. Dzyuba égalise. À cause de ce match nul, le Zénith Saint-Pétersbourg rate la qualification européenne. Artyom Dzyuba, lui, grâce à sa belle fin de saison, trouve une place in extremis dans la liste des 23 Russes pour le Mondial. Presque inespéré. Et le compte de fait se poursuit à la Coupe du Monde puisque le Colosse en est déjà à 2 buts en 2 matchs. L'histoire ne dit pas si Roberto Mancini a changé d'avis à propos du géant rouge.
Merci Franck Ballanger. Uruguay-Russie, c'est à 16h, tout comme Arabie Saoudite-Égypte à 20h ce soir. L'Iran face au Portugal et l'Espagne face au Maroc. Enfin, sachez que le Mondial donne des idées aux trafiquants de drogue, en Colombie. Les douanes ont mis la main sur des maillots de l'équipe nationale, maillots imprégnés de cocaïne. Chacun d'entre eux emportait l'équivalent de 5 kilos grâce à un procédé chimique.
8h15, c'est le plus grand festival de danse de l'été.
Il s'est ouvert ce week-end à Montpellier avec au programme une vingtaine de spectacles jusqu'au 7 juillet, parmi lesquels une création hip-hop, ça s'appelle Danser Casa, car c'est au Maroc, à Casablanca, que les créateurs du spectacle sont allés recruter les 8 danseurs de rue qui sont aujourd'hui sur scène. Stéphane Capron.
Kader Atou et Mourad Merzouki ont débuté ensemble leur carrière à la fin des années 80. Ils ont créé la compagnie Acrorap. Aujourd'hui, ils dirigent chacun de leur côté un centre chorégraphique, Kader Atou à La Rochelle et Mourad Merzouki à Créteil. Ils avaient envie de se retrouver sur un projet. Ils sont partis au Maroc pour dénicher les perles rares. Kader Atou a été époustouflé par la qualité des danseurs auditionnés.
Ce sont des jeunes danseurs qui font des battles en battle, que ce soit à Casa, à Tanger, à Rabat, qui ont une pratique du hip-hop autodidacte. On était surpris du nombre de danseurs qui étaient venus à l'audition, 280 exactement. Et on a vu pendant 2 jours des talents mais incroyable. Notre grande frustration, c'était de limiter cette audition sur 8 danseurs.
Danser Casa permet de regarder différemment le monde arabe pour Mourad Merzouki.
C'est vrai que le monde arabe a aujourd'hui un regard qui est perturbé. Et quand avec un spectacle comme celui-là, on partage avec le public cette générosité, ce talent de ces danseurs, on est bien conscient qu'il se passe des choses, au sens positif. Pour nous, c'est extraordinaire.
Ces jeunes Marocains sont de fabuleux danseurs, mais également de très bons acrobates. Danser Casa donne littéralement le vertige.
Ce soir, dernière représentation dans le cadre du festival Montpellier Danse, c'est à 22h. Faut-il rappeler que c'est un festival France Inter. Le spectacle partira ensuite en tournée pendant 1 an dans une 40aine de villes.
Merci Marc Fauvel.